Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hold on, everybody. Here it comes.
Sponzel, le podcast du gravel et du bikepacking, épisode 196, ici Richard Delhomme. Vous le savez, j'aime l'Espagne et surtout les Espagnols, j'aime la Belgique et surtout les Belges. Et j'en profite pour saluer Nicolas Verhelen. Et surtout, j'aime les psychopathes, les gens bizarres, ceux qui ne rentrent pas dans le moule, ceux qui vont au bout de leurs idées et refusent les compromis. Avec Olivier Jadoul, je suis servi au-delà de mes espérances les plus folles. En octobre, Olivier partira de Bruxelles pour rejoindre Barcelone. 1650 km, objectif 90 heures, soit 3 jours et 18 heures. Alors oui, j'entends déjà les grincheux s'exciter en disant que c'est 440 km par jour, que ce n'est pas exceptionnel, que c'est juste un rythme de vainqueur sur la Transcontinental Race. Mais cela reste exceptionnel, surtout pour un boxeur qui ne connaissait rien au vélo. Bonjour Olivier.
Bonjour.
Bon alors Olivier, c'est quoi ton problème ?
Mon problème, c'est l'ultra-distance. J'ai découvert ça.
Comment on passe de la boxe au vélo ?
Quand on se découvre. En se découvrant, je te dirais. En se redécouvrant, tout simplement.
Allez, vas-y, je te laisse détailler.
Pour revenir un peu, on va faire un petit retour en arrière.
Un petit retour, oui.
Oui, je crois que ça va être important quand même pour comprendre, parce que ce qui a dénoué tout ça, moi j'ai fait plus de 5 ans de boxe anglaise, de MMA. J'ai été champion en jiu-jitsu brésilien, au niveau européen, au niveau national, en Espagne. Et il y a à peu près 3 ans de cela, j'avais un petit peu tout ralenti, on va dire, pour laisser un peu de temps à mes enfants, à mon travail, parce que j'ai quand même papa de 4 enfants. Et il y a 2 ans, survient un gros changement dans ma vie. Donc je me sépare. Ça se passe pas comme je le veux. Enfin, c'est assez douloureux parce que je considérais ma vie comme un long fleuve tranquille. J'imaginais pas du tout ce genre de virgule. Et ça m'affecte énormément. Ça m'affecte énormément. Ça me fait remettre un peu tout en question sur ma carrière. Des tas de choses du passé surviennent, si tu veux, et j'y fais face. Moi, à ce moment-là, je décide d'y faire face. Je fais ce qu'on appelle un vrai burn-out sur le moment, parce que je travaille comme une machine aussi, je m'entraîne énormément, je cherchais à faire tout en même temps, être partout à la fois, mais jamais vraiment tout seul face à moi. Donc, à ce moment-là, elle a tout fissure, mais la première chose que j'ai fait, moi, c'est de chercher de l'aide. Dire, je vais arranger un peu la machine pour voir un peu ce qui se passe, pour comprendre. Et dans tout ce gros changement, on va dire, quand j'ai commencé à remettre un peu tout le puzzle en ordre, j'ai toujours été très transparent avec mes enfants. Je me suis assis avec eux un jour, comme on le fait chaque semaine, et je leur expliquais. Je leur ai dit, papa est pas en super forme pour l'instant, vous l'avez compris, je faisais mes allers-retours chez ma psy quasi toutes les semaines, j'avais décidé d'y aller vraiment à fond, de me remettre, de me soigner. Et je leur explique ça vraiment en toute franchise, on est sur notre petit cercle au salon en train de discuter, et je leur dis, par contre, je veux, quand je sors de là, on fasse quelque chose de spécial et plus grand que la vie pour montrer au monde qu'on est capable de ressortir gagnant de tout ça et qu'on peut vraiment montrer l'exemple. Et là, je leur dis, qu'est-ce qu'on peut faire, les gars? Vous avez une idée? Alors, mon premier, il me dit, tu peux refaire un combat. Je dis, mais non, c'est fini, les combats. Là, on fait table rase, on recommence à zéro. Et mon autre fils, qui à ce moment-là lisait le livre des records, me dit, tu vas nous battre un record du monde. Ce sera visible par tout le monde et puis tu vas pouvoir passer un beau message. Gros moment de silence, et là tu te dis, ouais, pourquoi pas. Et là je leur dis, on y va. Dans la minute, mon fils est monté chercher le livre, il est redescendu, on a scanné le livre un petit peu, on a regardé ça, et puis on a passé 2-3 coups de fil. D'abord ils m'ont proposé de sauter du 12e étage dans des boîtes de caisse, on a cherché des tas de trucs comme ça, et puis au dernier moment, j'ai vu un vélo passer sur les images. Alors pourquoi? Est-ce que c'est quelque chose qui me suit depuis longtemps et je m'en rends pas compte? J'ai vu ce vélo passer, j'ai dit, c'est ça que je vais faire. Je vais faire du vélo. J'avais jamais fait de vélo, j'avais aucune expérience dans le dans le cyclisme. Et quand je te dis zéro, c'est j'avais jamais enfilé la combi, j'avais jamais mis de chaussures. Enfin, je savais pas de tout ce que c'était qu'une vitesse moyenne. Donc voilà, on a discuté avec l'équipe du Guinness qui m'a dirigé vers la WUCA, la World Ultra Cycling Association, qui m'a tout de suite booké un créneau, m'a dit, ben voilà, là où t'es en Espagne, il y a un premier record à prendre, 2000 km, telle ville à telle ville. Et j'ai dit oui. Moi, tout de suite, j'ai dit oui. Je me suis pas posé de questions. Et on va dire qu'à partir de ce jour-là, ma vie a changé. Aussi simple que ça. J'ai pris 2 mois pour me remettre en forme. Et dans la foulée, j'ai acheté le vélo. Alors, quand le vélo est arrivé, j'ai compris que les problèmes commençaient sérieusement parce que je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce sport? J'ai connu des trucs, hein. J'ai connu des sports, j'ai fait des épreuves, j'ai escaladé sans câble, j'ai eu peur dans ma vie. Mais le cyclisme, c'est ce que j'ai connu de plus dur jusque maintenant. C'est pas humain. Mais qu'est-ce que c'est tellement bon. Et voilà. Alors, donc comment l'aventure s'est lancée.
Je m'excuse d'avoir confondu boxe et jujitsu brésilien, mais je ne savais même pas que le jujitsu brésilien existait. Donc déjà toutes mes excuses.
Oui. J'ai fait de la boxe aussi. Hein.
Mais de la boxe anglaise, française, parce que là pareil, je ne maîtrise pas. Moi, je fais 64
kilos. J'ai commencé
donc,
par la boxe anglaise, me bagarre donc, pas. Qui est juste les poings, le dessus. On travaille que le dessus et j'ai vite en fait quand j'ai emménagé sur l'Espagne, j'ai bougé vers l'Espagne, j'ai quitté la Belgique en 2008 pour m'installer en Espagne. Là, j'ai découvert le jiu-jitsu. Donc qui est un art au sol vraiment en kimono où on fait des clés de bras où on gagne en fait en soumettant l'adversaire ou alors en gagnant en points. J'ai découvert ça et de fil en aiguille très rapidement, vu que je maîtrisais plutôt bien la boxe et plutôt bien le jiu-jitsu mais que j'étais pas excellent dans un des deux arts, et le MMA, ça m'a parlé rapidement parce que j'étais capable d'assimiler toutes les informations et les mettre ensemble. Le MMA, après, c'est une combinaison de tous les arts martiaux que tu mets ensemble, et le but, c'est de pouvoir envoyer une information rapidement à ton adversaire pour le dégoûter, tout simplement.
Le MMA, c'est quoi? C'est une assurance?
C'est les arts martiaux mélangés, le Mixed Martial Art. Donc, c'est vraiment tout art martiaux confondu, et on a créé des règles à partir de là, tout simplement. Donc c'est vrai qu'à première vue, pour les personnes qui connaissent pas, ça peut paraître ultra violent, ultra fort, parce qu'on en véhicule un message, des images très fortes, mais c'est quelque chose qui me correspondait beaucoup à ce moment-là.
Tu cherchais la bagarre, toi, hein, je suis sûr. Ouais, au lycée, t'étais un bagarreur, toi, au lycée. T'as dû avoir des emmerdes.
Un petit peu, ouais, quand même.
Pourquoi t'es parti vers un truc, justement, en étant bagarreur? Pourquoi ça t'a amené quoi d'aller vers des arts martiaux finalement assez violents quand même? Tu pouvais pas faire du judo comme tout le monde?
Non, moi la première fois que je suis passé devant une salle de boxe, je m'en rappellerai toute ma vie. J'ai vu un grand cœur moi quand je suis passé devant la salle de boxe, j'ai vu des mecs se mettre sur la tête. Alors ça remonte à mon passé, on va dire malheureusement et bien heureusement parce que c'est ce qui m'a forgé. J'ai eu une enfance avec un papa un petit peu poussé sur les coups, qui était assez violent, assez brutal physiquement. Donc, on va dire que quand tu grandis dans ce genre d'environnement, entre guillemets, même si mon environnement était très correct, mais voilà, de ce côté-là, il y avait cette affection qui était différente. Moi, j'avais assimilé l'amour à la violence à ce moment-là. Donc, le jour où j'ai vu que ça existait, que ça pouvait se pratiquer, je me suis dit, génial, je vais me lancer dedans. Mais ça m'a pas permis d'exceller au niveau où j'aurais pu parce que j'allais plus chercher la violence quand je combattais que l'art martial en lui-même. Donc forcément, t'as forcément un plafond à un moment qui te bloque et j'avais les réflexions de mes entraîneurs qui me disaient toujours, tu vas chercher des coups qui font mal et ça a pas de sens. La boxe, l'art martial, c'est pas ça à la base. C'est vraiment un travail physique, mental. C'est une déroute de l'adversaire. Enfin, c'est tout un jeu d'échecs. Et moi, je comprenais pas ça à ce moment-là. Donc c'est pour ça que, quand j'ai eu la remise en question, la première chose que j'ai fait, c'est de dire, j'ai pas commencé avec les bonnes bases, donc déjà j'en veux plus de tout ça.
Donc en fait, si je comprends bien, alors déjà vis-à-vis des arts martiaux en eux-mêmes, toi t'exprimais plus une sorte de colère avec ça, et tu passais à côté du côté oubli dans les arts martiaux, qu'on peut lire dans le tir à l'arc et le zen. Et quand tu as eu ton petit burn-out, tu as complètement laissé les arts martiaux. Tu as complètement délaissé cette partie-là.
Et ouais, c'est ça.
C'est ça,
c'est ça exactement.
Qu'est-ce qui t'a attiré dans le vélo que tu ne retrouves pas et
Le voyage, la liberté, l'aventure. Je me suis souvenu avec le temps, beaucoup plus tard, que à 16 ans, en Belgique, j'avais challengé mon meilleur ami. Je lui ai dit, bien, on traverse la Belgique en vélo. Ce qui, à notre âge et à cette époque, était n'importe quoi comme idée. D'ailleurs, c'est ce que tout le monde m'a dit. C'est n'importe quoi et je l'ai pas fait pour ça. Donc, ça m'a suivi un petit peu déjà cette envie de liberté parce que j'ai fait beaucoup d'alpinisme aussi sur le côté. Je partais souvent seul, escalader, traverser des chaînes de montagne. J'avais cet amour de l'aventure, du risque, et toujours là aujourd'hui d'ailleurs, très très présent. Et je pense que dans le vélo, j'ai vu une façon de pouvoir voyager, m'exprimer à travers le voyage, à travers la cette liberté d'être libre comme l'air, tout simplement.
Bon alors, qu'est-ce qui est le plus dur ? Se prendre des coups en boxe ou alors avoir mal aux fesses ?
Les fesses. C'est même pas mal aux fesses. Tu sais quoi, c'est même pas mal aux fesses parce que là, j'ai passé un stade où c'est fini, je fais tellement de kilomètres par semaine. C'est la douleur physique en général que ça génère. Allez, tu vas faire de la boxe, du MMA, ce que tu veux, t'as mal à des points bien précis. T'as mal aux cuisses parce qu'on a travaillé les cuisses, t'as mal un peu au ventre parce qu'on a reçu un peu de coups, t'as mal aux biceps en général beaucoup. Mais je suis rentré encore hier de 80 bornes que j'ai quand même tapé assez fort, t'as mal jusque dans les ongles. C'est ça la différence, mais c'est spécial. C'est très difficile à décrire.
C'est plus une fatigue, une douleur profonde peut-être en vélo pour toi, plutôt ouais, qu'une douleur, ouais, une douleur de surface. En boxe, ouais, peut-être c'est la carapace qui prend des coups.
C'est que la carapace. Ça. Tu prends des coups, c'est en surface au final, parce que tu te répares le lendemain et tu reprends. Et là, en vélo, tu donnes ton âme en fait là-dedans. Parce que quand l'extérieur commence à piquer, c'est au fond que tu vas chercher très très loin. Et d'ailleurs, ce que je dis à chaque fois, c'est que ça a été ma deuxième thérapie, le vélo. Quand j'ai travaillé avec ma psychologue sur ma psychanalyse, je l'ai fini au moment où j'ai commencé le vélo, parce que quand t'es 6 heures sur le vélo, 4, 6 heures, les premiers 100 kilomètres comme ça sur le vélo, que ça pique, ben t'es seul face à toi-même, et il n'y a pas d'arrêt, il n'y a pas de pause, il n'y a pas de ronde, tu vas boire et tu recommences, tu roules jusqu'à ce que t'arrives à ta destination, et tu te parles à toi-même du coup. Tu vas te chercher, tu te découvres un second, troisième, quatrième souffle, et c'est là que c'est très spécial, c'est très profond, vraiment.
Il t'a fallu combien de temps pour ton premier 100 km ?
2 mois. J'ai avancé très vite, parce que j'avais, à ce moment-là, pour mon premier record, 7 mois pour me préparer pour partir. Et j'étais surtout seul livré à moi-même, c'est-à-dire que j'avais pas pris de coach, j'avais rien de tout ça. J'étais sur YouTube, j'ai suivi un peu un processus moi-même pour comprendre comment démonter un vélo, le fonctionnement, ce qui était important à surveiller. Donc les 100 premiers kilomètres, oui, en 2 mois, je les ai faits. C'était pas agréable, hein, je te cache pas.
Qu'est-ce qui était pas agréable ?
Ah, la sensation, la douleur, je me rappelle, c'est des aiguilles qui te rentrent dans tout le corps, les 100 premiers kilomètres, Mais vraiment, j'ai l'impression, je me disais, je vais mourir en fait, je vais mourir à cause de la douleur, sans rigoler. Parce qu'aujourd'hui, 100 km, je me dis, oh chouette, quand je vois dans mes entraînements arriver, je me dis, oh chouette, bon allez, c'est une belle balade. Mais il y a un an, c'était pas ça.
Et donc le premier record, si j'ai bien compris, c'était une traversée ibérique, donc une traversée de l'Espagne, oui. Espagne-Portugal.
Oui.
2000 km que tu as fait en...
1000 kilomètres.
1000, oui, alors, c'est ça, 1000, oui. Ouais,
1050 kilomètres, très exactement, que je devais faire en 48 heures. Alors, malheureusement, c'était beaucoup de bricolage encore à ce moment-là, dans le sens où je découvrais tout ce monde-là. Alors, j'ai fait une erreur fatidique énorme. C'est le jour même. Qu'est-ce qui s'est passé? On sait toujours pas l'expliquer, mais j'ai pris le chemin alternatif que Google te propose, avec un dénivelé, mais explosé complètement, et j'avais un vélo de tri pour partir. Donc, en gros, on l'a fait c'était censé être 4000 mètres de D+. J'ai pris 10 000 mètres de D+, si je dis pas de bêtises. Et je l'ai fait en 60 heures finalement, parce que, on s'est perdu, recommencer. Ça a été validé. Donc, je suis très content. Mais voilà. Si je devais repartir aujourd'hui, j'arrangerais ce temps rapidement. Mais voilà. On l'a fait en 60 heures sur les 1050 kilomètres.
Donc, 1000 kilomètres, 1050 kilomètres, 10 000 de D+, 60 heures.
Ouais.
En autonomie ou avec une petite équipe derrière ?
Avec une petite équipe, avec un petit van qui me suivait, qui me nourrissait, qui me permettait de récupérer la nourriture et repartir.
Donc tu roules quasiment non-stop ou tu opères des petites pauses ? Ouais. Tu fais comment sur un truc comme ça ? C'est quoi le découpage d'une journée comme ça pour faire ça ? C'est quoi ton découpage quotidien ?
Créneau de 100 km, donc 4 heures, entre guillemets, où la pause est autorisée. Avant ça, je descends pas du vélo. Et tous les 100 km, ben c'est au début, c'était descendre du vélo, manger, repartir, mais on s'est rendu compte vite, ça prenait quand même pas mal de temps. À la fin, j'étais tellement dans le flow, c'était l'habitude, c'était arriver, c'était me faire frotter le dos après 100 km, me faire ramasser un peu vite les jambes, frictionner les jambes, rester sur le vélo et ben, je m'appuyais sur mon guidon, c'était relâcher un peu le corps, avaler quelque chose et repartir. Et puis au bout de 200 km, on avait une tournante comme ça de créneau, mais que j'avais prévu moi à l'avance, j'avais établi déjà tout à l'avance, où j'avais le droit de m'asseoir un peu, manger un repas chaud et repartir. Donc c'était alterner repas chaud, repas froid, barre de céréales, massage, pas massage. Donc tous les deux créneaux, on avait un horaire déjà préétabli. Mmh. On a plus ou moins suivi parce qu'au final, tout a changé. Mais l'important, je crois que c'est qu'on ait quand même planifié à l'avance.
Et donc là, pour Bruxelles-Barcelone, tu pars sur la même organisation?
Ouais, même organisation, sans sommeil. On va jouer beaucoup sur le sommeil, ce qui va parce que faut pas se mentir, en tant que néo-cycliste, et je me rends compte qu'il faut, il me faudrait des années pour arriver au niveau auquel je souhaite arriver. Néo-cycliste, ça fait toujours moins de 2 ans que je roule. Pour avoir une bonne vitesse, la bonne vitesse moyenne, je l'aurai pas sur le jour du record, vraiment celle que je veux atteindre. Je vais miser sur le sommeil qui va me faire gagner énormément. Moi, le fait de pas dormir va me faire gagner énormément. Donc l'objectif, ça va être ça, de vraiment quasi pas dormir, réduire les pauses au maximum, et c'est là qu'on va y gagner beaucoup, justement. Et arrêt tous les... Alors, le camion me suivra certainement vraiment là pour le coup, vu que c'est un long record et qu'il y a quand même un danger quand même du fait du manque de sommeil, de fatigue. Il va peut-être me suivre à la trace beaucoup plus près, mais on va dire que les approvisionnements se feront peut-être tous les 50 km. On a encore recalculé ce détail.
Le camion, il est toujours derrière toi, ou au contraire, il te laisse un petit peu d'espace de liberté pour être seul, tranquille et pas avoir la pression de la camionnette derrière?
Ça fait plaisir ce que tu me dis.
Ah
ben on se comprend, parce que moi la pression de la camionnette, j'ai vraiment beaucoup de mal avec. Légalement, je suis obligé d'avoir le camion derrière moi tout le temps. Légalement, vraiment. Alors, on a proposé à l'équipe un système de traçage qui va permettre de retracer le vélo. Parce que dans le camion, il faut savoir qu'il y a des juges. Il y a deux personnes qui sont juges et qui se relayent toutes les X heures. Et donc, vont devoir noter chaque 10 km la latitude, longitude et ainsi de suite et les détails. Ce qui permet après, en cas de doute, à l'équipe du Guinness se dit, ben, en cas de doute, ça semble un peu bizarre, on va pouvoir revoir un peu tous les formulaires. Donc, j'ai ces personnes qui doivent me suivre à la trace. Mais moi, j'ai cette pression qui est insoutenable du moteur de la voiture derrière. Enfin, c'est quand même une introspection, un voyage comme ça, qu'on le veuille ou pas, que ce soit un record ou pas, c'est une introspection, c'est quelque chose de très profond. Donc, on s'est dit qu'on me laisserait un peu de temps, qui me suivront la nuit à la trace. Ça, c'est non négociable, c'est beaucoup trop dangereux. Et la journée, par contre, ben, ils avanceront par créneau et m'attendront tous les X, 20, 30 kilomètres à peu près, et sachant que j'aurai le tracker, la puce sur moi également.
Et donc, il y a du monde du Guinness carrément dans la camionnette embarqué avec toi.
Ouais, alors, c'est des personnes que je connais, mais qui sont certifiées, qui sont ou vont devenir certifiées. Tu passes un petit examen, un test, un petit questionnaire, tu t'affilies, tu payes un certain montant et tu deviens officiellement juge pour le Guinness. C'est pas, on va se le dire très clairement, c'est pas de tout repos un projet comme ça, parce que c'est pas uniquement se dire, ben, je m'entraîne pendant 12 heures par jour à rouler. C'est un projet énorme autour à gérer, c'est une équipe à gérer, c'est des inscriptions, c'est une communication que seul moi peux faire avec l'équipe du Guinness en anglais, où on discute quasi toutes les semaines. À partir de maintenant, on va discuter presque toutes les semaines, on vérifie comment ça avance, enfin voilà, me demander des tas de détails. Et après, c'est pareil aussi, il y a un avant et un après, donc c'est vraiment toute une gestion de projet énorme au final.
Et tes enfants, ils vont comment?
Bien, bien.
Ils ont dit quoi jusque-là? Ils sont contents que tu ailles jusqu'au bout de l'idée, de leur idée, ouais, finalement? Parce que c'était pas ton idée, c'est la leur. Oui.
Eh ben là, aujourd'hui, ils me suivent. Ça fait un peu tarte à la crème et bateau, hein, ce que je vais te dire, mais c'est ma plus grande motivation aujourd'hui. Vraiment. Ils sont avec moi jour et nuit. Savoir que quand je les ai, donc je les ai une semaine sur deux, moi je les élève tous les 4 seuls. Donc la semaine où je les ai, ça arrive pendant tout l'été. Ben souvent, ce que j'ai fait pour pas couper la journée avec eux, c'est de m'entraîner la nuit. Donc me faire mes chiffres de nuit, c'est-à-dire que je commencerai à 22h et je finirai à minuit sur le home trainer. Et ben du coup, en fait, c'est génial parce qu'on a instauré une routine. Ils viennent d'eux-mêmes s'asseoir à côté de moi et puis ils me remplissent mes bouteilles, ils m'amènent des trucs. Il y a ma fille qui est avec le téléphone en train de surveiller sur Zwift et de parler aux autres, etc. Donc ils me supportent à 150%. C'est peut-être même pas assez dire encore 150. C'est vraiment un... c'est loyal. On se supporte l'un l'autre, et quand parfois ça va pas trop, ben j'ai une petite vidéo de leur part qui me rappelle qu'il faut y aller, il faut pas lâcher. Donc voilà.
Alors justement, parlons-en. Quand ça va pas, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as mis en place comme routine et comme pensée parade? On va employer les termes précis. Ouais. Quand justement il y a un petit peu de parasitage, quand il y a des doutes, quand il y a des qu'est-ce que tu fous là, mais pour qui tu te prends, regarde ton gabarit, t'as pas l'air d'un cycliste.
Ouais.
Alors déjà, quels sont les parasites? Les parasitages, qu'est-ce qui se passe? Le nain, quand il arrive, qu'est-ce qu'il dit?
Ah, voilà. J'adore ce moment. On se comprend tellement. C'est la première fois que j'ai cette discussion parce que je me sens tellement seul dans ces moments-là. Alors, le nain, là, il intervient souvent au début. Donc, dans les 50 premiers kilomètres, si je suis pas de bonne humeur, j'ai mal digéré avant de partir. Ça commence par des petites voix négatives. Mais qu'est-ce que tu fous là? Enfin, c'est n'importe quoi. Tu devrais retourner travailler. Ça a pas de sens. Ça fait mal pour rien. Ça m'arrive très souvent encore de craquer, de descendre du vélo, de me mettre à pleurer de douleur ou m'énerver simplement parce que je comprends même pas ce que je fais, je suis pas dedans, je comprends pas. Dans ces moments-là, je me parle à moi-même et je me récite des psaumes de motivation comme je les appelle. Je me cause tout seul et je me rappelle à quel point ça peut faire anti-humilité hein, ce que je vais te dire, mais je me rappelle à quel point ce que je fais est exceptionnel. Et je me le répète une bonne dizaine de fois pour que ça commence à rentrer, parce que ben je parle à mon subconscient, je sais à quel point le subconscient a pas le sens de l'humour, donc faut lui dire les choses fortes. Je me rappelle à quel point ce que je fais est exceptionnel et surtout que j'ai une mission. Je me rappelle que j'ai une mission de vie aujourd'hui, qui est de transmettre aux autres justement que là d'où je viens, on peut sortir. Et je me le répète et je crie. Hein. Je suis dans la rue généralement sur le bord avec mon vélo à côté. Je fais le tour de mon vélo et je me répète les choses et je me tape sur la poitrine très fort. Et puis il y a un moment où ça repart. C'est le premier souffle qui revient en général.
Ouais, donc quand j'ai vu en Andalousie, quand j'ai vu des panneaux, des petites affiches avec ton portrait, avez-vous déjà vu cet homme? C'était toi après avoir été chopé par les caméras vidéo en train de hurler dans la rue, en train de te taper dessus.
Ouais.
Ok. Très bien.
On n'est pas loin. On n'est pas loin de la folie dans ces moments-là, mais c'est une introspection, c'est un dialogue avec son âme, je pense, dans ces moments-là. Je t'avoue qu'au début, j'avais difficile dans le sens où j'avais les petites mauvaises voix qui revenaient assez souvent par rapport à l'estime de moi, tout simplement. Mmh. Forcément, mais en fait, je pense qu'il y a la zone de confort qui est cette espèce de diable intérieur de toi qui va te... Et là, c'est vraiment vicieux. C'est cette espèce de voix intérieure qui va te ramener sur ton sofa. Dire, mais viens, on est bien là-bas. Et je vais te faire une confidence, hein, vraiment, sans honte. Il y a pas si longtemps encore, j'étais parti sur un 250 km d'entraînement, j'étais un peu fatigué, j'avais les enfants la veille, j'avais à peine le temps de récupérer, enfin voilà, beaucoup de choses en tête. Et sur la route, écoute, j'ai une voix qui me disait, mais alors, j'étais en souffrance, j'étais en vent de face, enfin, c'était vraiment pas agréable. Et j'ai une voix qui me disait carrément, Olivier, appelle Anthony, donc mon meilleur pote, il est là toujours quand j'ai besoin de lui, appelle-le, dis-lui que ton pneu s'est crevé, tout va bien, on le dira à personne, et puis on rentre dormir. Mais t'imagines, et je me rappelle rouler, être un peu divagant et me dire, allez, c'est bon, on le fait, et au dernier moment me dire, mais non, c'est hors de question, je me regarderai pas en face si je fais ça, et je sais pourquoi je fais ça, mais voilà, pendant 30 secondes, une minute, jusqu'où l'esprit peut aller te ramener et te chercher, et c'est là qu'il faut se battre avec soi-même, dire, mais non, j'ai ma fierté, j'aime ce que je fais, et il faut se donner des mots forts, positifs, et on repart, quoi.
Quand tu combattais, alors là on a parlé du nain. Alors juste une précision pour le nain. Je prends l'exemple du nain parce que en fait en France ou dans plein d'autres pays, on va plutôt parler de pensée parasite, on va parler de démon. Donc cette petite voix, comme tu l'as très bien dit, qui dit mais qu'est-ce que tu fous là? Allez viens, on rentre, on le dira à personne, ouais. On s'en fout, c'est pas grave. Et en Espagne, en fait, ils appellent ça le nain. Donc, t'imagines un petit peu comme dans Fort Boyard, le nain qui arrive avec sa clochette et qui te dit « Allez, viens, amigo, on rentre à la maison !» J'ai pris l'exemple parce que toi, t'habites à Malaga. Et en fait, culturellement, les Espagnols vont plutôt parler du nain. Là où on va parler du démon, du petit diablotin, la petite voix intérieure qui te dit « Bon, allez, c'est bon, on rentre, viens.
Ouais. »
Allez. Est-ce que tu avais ça? Est-ce que le nain te parlait quand tu combattais? où tu étais complètement drivé par, dirigé par la colère, par la haine et par la violence?
Non, c'est pas quelque chose de normal hein, de partir combattre comme ça. Déjà à la base, je pense, on est tous en se bagarrant quand on est petit, on joue des jeux physiques, mais partir, comme je dis, te diriger vers la mort entre guillemets, c'est pas humain. Donc forcément, j'entendais ces voix. C'était au moment surtout du trajet. Je me souviens. Donc on montait dans la voiture en équipe, on partait. Et là, t'as un moment de down, il n'y a plus personne qui parle, on est un peu fatigué, on est un peu desséché parce qu'on parle la plupart de nous en pour la peser, on est en sous-poids. Et je me rappelle toujours à ce moment-là, j'entendais des voix et qui me disaient, mais qu'est-ce que tu fous là, quoi? Enfin, c'était le dimanche, les combats la plupart du temps, donc tu pourrais être en repas de famille, tu pourrais être tranquille à la maison. C'est le dernier, on arrête après, je le disais tout le temps d'ailleurs, c'est le dernier, on arrête. Et puis voilà, tu te surpasses, tu gagnes, tu découvres l'adrénaline. Mais jusqu'à la minute avant le combat, moi, je me faisais dessus, hein, j'étais pas bien. J'avais la nausée, j'entendais toutes sortes de trucs, comme, et à chaque fois, c'est la même chose, c'est le dernier, c'est promis. Voilà, je me parle à moi-même, c'est promis, c'est le dernier. Et ça quand tu. 2, 3, 4, 5 ans comme ça.
Et quand tu montes sur le ring, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais ou qu'est-ce qui se passe pour que tu oublies tout ça et que tu. Tu cognes. Enfin, je suis désolé de le dire ainsi, j'ai pas les mots, je maîtrise pas du tout les. Ouais. Je maîtrise pas du tout les trucs comme ça. Et je le dis de manière un peu cavalière, parce que je maîtrise pas. Mais tu montes sur le ring et ton objectif, ta mission, c'est de taper sur l'autre. Qu'est-ce qui fait et qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu te dis pour stopper toutes ces voix intérieures et dire au nain, ferme ta gueule?
Elles s'éteignent toutes seules, en fait. À partir du moment où ton nom est prononcé, on t'appelle, il y a 6 mois, 4 mois de travail qui prennent le dessus. C'est fini, on parle plus et il y a un silence. C'est très étrange à dire, malgré le bruit qu'il peut y avoir autour. Quand tu montes sur un ring comme ça, il y a un silence sourd qui s'installe. T'entends plus de bruit. Juste le bruit de tes pas sur le sol à la limite. T'as les yeux de cet adversaire en face. Et pour moi, si t'as bien travaillé, t'es confiant, c'est à toi de jouer. Tu t'es tellement entraîné que justement, les voix ont plus le dessus dans ce moment-là. C'est t'exécutes. T'exécutes le plan, t'entends la voix d'un coach derrière qui te dit à la limite ce qu'il faut faire, mais t'exécutes simplement. Et je me rappelle de la première fois que je suis monté sur un tatami, là c'était un tatami en compétition, il y avait du monde, j'étais pas bien, je transpirais, mais au moment où j'ai frôlé le sol, c'était fini, c'était un silence absolu, et généralement après on défile, on exécute, on se pose pas de questions. À un point d'ailleurs, on se pose pas de questions, où on a une perte de mémoire en général quand ça se passe bien. Quand ça se passe bien, on n'a pas la mémoire de ce qu'on a fait. La première fois, je me suis réveillé quand le gars était KO en dessous de moi. Aucun souvenir de comment ça s'était passé, rien. Je me rappelle avoir frôlé le sol, d'avoir une montée d'adrénaline excessivement forte, et après d'avoir vu ce gars qui était en dessous et l'arbitre qui me poussait, qui me disait c'est fini, quoi. Donc, je pense à ce moment-là, c'est la confiance en soi, le travail qui prennent le dessus, et puis c'est parti. Là où j'ai pas ça sur le vélo justement, et c'est là que je te dis que le vélo est beaucoup plus dur parce qu'au final. Quand t'as une rafale de coups qui peuvent arriver comme ça, tu penses pas trop, en fait, hein. Ça va très vite. Tu penses à survivre, à passer très vite. Là où en vélo, ça tourne. Et il faut un mental, tellement fort pour ça. Pour pas laisser place aux pensées, justement, trop envahissantes.
Alors, là, tu viens de me parler de la rafale de coups. Par contre, à vélo, on n'a pas de rafale de coups. On a au minimum 2 ennemis invisibles qui font des ravages, à savoir le vent de face, la gravité. Et quand tu les as, sachant que t'es pas non plus complètement un poids plume, t'es pas un poids lourd, mais tu n'es pas non plus un poids plume, comment tu gères justement ces ennemis invisibles quand c'est dur? Tu peux pas t'en protéger et ça dure, ça peut durer longtemps. Qu'est-ce que tu fais pour bloquer cette petite voix? Ça n'avance pas, t'as mal, éventuellement ça grimpe, ouais. Et t'as pas non plus un physique de grimpeur. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe là-haut?
Il y a 2 choses. Accepter les choses telles qu'elles sont, être dans l'acceptation. Ça m'a pris beaucoup de temps, et ce n'est qu'il y a peu que j'ai commencé à comprendre un peu ça pourrait être la clé. C'est-à-dire que c'est se détendre et arrêter, simplement de se poser des questions. Et juste accepter que ça monte et ça redescendra. Accepter que ça souffle et ça tournera tôt ou tard. Et profiter du moment. C'est ce qui fait partie de toute cette préparation, de tout ce que je fais. La première fois, tu sais, j'ai le premier record, je me suis focalisé que sur l'arrivée, sur l'objectif. Et j'ai peut-être potentiellement pas assez profité de tout le processus. Et si je me suis juré une chose, je relance tout ça, je vais profiter un maximum du processus. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai une rafale de vent, eh ben, ça passe, parce qu'elle va s'arrêter un moment ou un autre. Et donc, je roule. Et je pousse, et ouais, je pousse. J'ai rencontré il y a 3 mois, quand j'ai traversé le sud du Portugal en entraînement en vélo, un vieux monsieur, et qui traversait toute l'Europe en vélo. Et sa phrase, je me rappellerai toujours, hein, il m'a dit, mais je lui ai dit, mais comment tu fais? Parce que ça soufflait à mort aujourd'hui. Et il était d'un calme, il m'a dit, bah, je profite du paysage. Je profite des odeurs, moi, et j'attends parce que le vent, il va tourner un moment ou un autre. Et depuis, ben, c'est ce que je fais, en fait. Ça monte. Ah, ben oui, ça monte à mort. Ben, eh ben, on y va. On se la mange, la montée. Mais ça s'arrêtera de toute façon à un moment ou un autre. Donc, profite de ce paysage en montant parce que tu vas être en hauteur. Il y a des bonnes choses à voir dans tout. Quand c'est difficile, c'est kiff parce qu'au final, il y a quelque chose de beau qui t'attend derrière. Et pas plus tard qu'hier, j'ai grimpé un col, mais insupportable. Mais je savais qu'au-dessus, j'avais un coucher de soleil. Il était 19h. Je savais que j'avais une descente d'enfer à 60 à l'heure. Donc, voilà. C'était mon petit 4 heures qui m'attendait.
Donc, tu veux dire que sur ton premier record, tu t'es focalisé sur les résultats, sur l'arrivée, ouais. Et au lieu de te focaliser sur le moment présent et le processus, qu'est-ce que je fais là maintenant et qu'est-ce que j'ai à faire là maintenant? C'est ça?
Oui. Oui. Et qu'est-ce que ça m'amène? Qu'est-ce que tout ça m'amène? Parce que ça, c'est un game changer, tout ça. Ça change ta vie. Moi, ma vie a changé complètement du tout au tout. Et je pense, alors c'est pas grave, hein, c'est pas, je regrette rien dans ma vie. Mais je pense que j'ai pas capté assez la beauté de tout ce qui m'arrivait dans les mains à ce moment-là. C'est-à-dire que ça a créé un nouvel entourage, ça a créé des nouvelles collaborations, une manière de sentir les choses, tout ça. Aujourd'hui, j'apprécie beaucoup plus, tout simplement. Aujourd'hui, chaque chose liée à ça, au vélo, à ce défi, je l'apprécie parce que je me rends compte de la chance que j'ai d'avoir pu faire ce pas, tout abandonner pour ça aujourd'hui. Donc, je prends plus de temps à l'apprécier. J'ai presque envie de te dire que le jour du record, pour moi, ça va être une balade. Qui ne va pas être facile, mais c'est la balade de santé. Le plus dur et le plus fort, c'est tout ce qu'il y a autour. Et je l'apprécie dans la difficulté, dans la facilité, dans le bonheur, dans les choses plus dures. J'ai tout apprécié à sa juste valeur.
C'est quand? Tu pars quand?
Octobre. Je peux pas donner de date encore parce qu'on est en train de valider encore les sponsors, les derniers détails, mais on est sur le début octobre.
Et après? Tu vas faire quoi?
On continue, on ne s'arrête plus après. J'ai fait un pari avec moi-même et avec la vie. En janvier, j'ai quitté mon boulot. J'ai quitté un boulot dans lequel j'étais excessivement bien. J'avais une très bonne situation. J'ai tout abandonné. J'ai demandé d'être libéré de l'entreprise pour ça, pour me dédier à ça, parce que j'ai trouvé ma voie là-dedans. Donc, le pari est tenu. Il va falloir travailler dur, mais je m'arrête plus. On repart après l'année prochaine. C'est un record par an. J'ai pas envie de dire 2 parce qu'on risque de me dire que je m'étale de trop, etc. Enfin voilà, j'ai la tête qui fonctionne à 400 heures toute la journée, mais c'est un record par an, c'est pulvériser un record par an. Mais c'est pas de nouveau, je te le répète, hein, c'est pas le record en soi le plus important, c'est pas la page du Guinness, c'est un remerciement, c'est sympa parce que je vais laisser quelque chose pour mes enfants. Mais le record, c'est un petit centre comme ça, et c'est ce qui gravite autour, c'est ce que je peux apporter au monde autour. Parce que je vais quand même te faire une aparté... un peu spécial, dont je ne parle pas encore, et que j'ai pas encore révélé, on va dire, au grand jour. Donc, je vais te révéler tout ça en exclusivité. On va remonter très rapidement dans le temps, vraiment il y a très longtemps, à quand je suis né, pour t'expliquer quelque chose qui est clé par rapport à ce que je suis en train de faire maintenant. T'as un petit peu de temps pour que je t'explique tout ça vite fait?
Attends, normalement, quand il y a un truc comme ça, attends, je le sors. Ah mince. Ah, je suis désolé, des fois ça.
Oh yes.
Voilà. Voilà, c'est quand même beau. Attends, je vais déjà préparer les voilà.
Énorme.
Et en fait, je vais te faire une confidence, moi aussi, je suis en train de préparer des citations de films parce que je regarde énormément de films et j'adore ponctuer certaines discussions avec des citations de films. Et je suis en train de me faire une librairie de citations de films que je vais pouvoir balancer en lieu et place des roulements de tambour et des...
Ouh.
Voilà.
Trop fort, j'adore.
Eh bien voilà, c'est à toi. J'ai tout le temps qu'il faut. Vas-y.
On va remonter rapidement quand même dans le temps. Je vais te le faire brièvement, mais que tu comprennes à quel point tout ça me tient à cœur. À ma naissance, si tu veux, moi, je suis né donc au Togo, en Afrique. Et à ma naissance, il y a quelques trucs qui se sont pas très bien passés. J'ai chopé, en fait, pour le faire simple, j'ai attrapé un virus qu'on n'a pas détecté tout de suite. Un microbe qui a rongé une partie de ma hanche. Et mes parents l'ont vu quand j'avais 1 an, quand j'ai commencé à marcher seulement, parce qu'ils ont vu que j'avais un décalage, je marchais pas comme tout le monde. Ils se sont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, de là, en fait, s'en est commencé une bataille contre le temps et avec les médecins pour comprendre ce qui se passait, voir comment on pouvait rattraper ça. Malheureusement, c'était pas rattrapable, on pouvait pas revenir en arrière. J'avais une grosse partie de mon os qui avait été, qui avait disparu. Donc, à partir de là, on a commencé une série d'opérations pendant presque 10 ans approximativement, où j'ai subi chirurgie sur chirurgie chaque année. C'est les moments, les années les plus dures de ma vie parce que j'ai souffert énormément et je peux dire que la douleur, j'ai dansé avec à ce moment-là. J'ai vu des choses très très dures. Enfin, c'était chaque été pratiquement en chirurgie où je me faisais ouvrir, rouvrir, fissurer les os. Donc, si t'as jamais vécu d'opération, c'est la chose la plus douloureuse que tu puisses connaître parce qu'il y a, enfin, il y a une période après qui est excessivement douloureuse. À cette époque-là, faut savoir qu'on maîtrisait pas bien les produits pour. Alors, je trouve plus le mot maintenant, pour t'endormir, tout simplement, on utilisait des gaz. Sur les enfants, c'était pas bien dosé, donc il est arrivé certaines opérations où moi, je me suis réveillé, le produit avait quasi pas fonctionné. Donc, en termes de douleur, j'en ai un sacré paquet, et surtout en termes d'interdiction, c'est-à-dire que la vie m'a très vite fait comprendre que c'est mort, tu feras rien de ta vie, enfin, si c'est la partie physique, tu l'oublies. Je me souviens que vers 10-11 ans, j'en avais ras-le-bol. C'est de réapprendre à marcher chaque année, de réapprendre à me reconstruire, d'être charcuté par des médecins qui essayaient tout ce qu'ils pouvaient pour y arriver. Et vers 10-11 ans, j'ai annoncé à mes parents et aux médecins, j'ai dit, moi, j'arrête tout, c'est fini. C'est pas possible, enfin, je peux pas. Là, les médecins m'ont dit, ok, good luck, mon pote, on se revoit en quelques années avec une scoliose, avec un corset, puis tu feras, je me rappelle de cette phrase, mais tu feras jamais de sport. Par contre, tu oublies le sport, tu peux pas. Moi, j'ai été à contresens, forcément. Et le temps est passé. J'ai un feu qui s'est installé en moi à cause de tout ça et j'ai commencé à me construire, justement. Et à m'entraîner, en fait, je me suis jamais arrêté de m'entraîner. Et preuve est-elle, quand j'ai revu mon médecin d'enfance qui m'avait traité vers, je pense qu'il devait avoir 20 ans, 21 ans, il n'a pas compris. Il m'a dit, t'arrêtes jamais de t'entraîner, c'est sûr, mais il comprenait pas. Ça a défié toutes les lois de la nature, ce que j'avais pu produire au final.
Et ça, c'était au Togo ou en Belgique?
En Belgique.
En Belgique.
Donc, je suis resté au Togo très peu de temps. On est parti en Belgique pour ça, parce que, pour trouver les bons médecins, on a voyagé beaucoup, on a cherché des médecins, et à partir du moment où on s'est installé à Bruxelles, c'était mon lieu de vacances. Moi, c'était les hôpitaux. C'était les hôpitaux, et c'était post-opération. C'était des lourdes opérations, hein, de 6-7 heures facilement, et puis c'était post-opération, c'était rentrer à la maison, c'était être plâtré parfois sur tout le corps pour pas bouger, parce que j'étais très agité. C'était ramper vers les toilettes la nuit, enfin, c'est pour te dire l'état physique, t'es plus qu'un légume quoi. Et très tôt, donc c'est apprendre à survivre un peu, à survivre face à cette espèce d'interdiction de la vie de devenir toi-même. Et ben là, forcément, déjà, je pense que j'ai forgé quelque chose de très fort en moi, et au final, regarde, j'arrive à monter en vélo, j'arrive à faire des distances quand même incroyables. Donc c'est un deuxième exemple, hormis la partie psychologique où oui, j'ai connu des cassures et oui, je veux montrer au monde que malgré tout ça, une grosse dépression, de fortes pertes ou autres, vous êtes capable de vous relever physiquement aussi. Il n'y a rien qui peut nous arrêter, rien ni personne qui peut nous empêcher de vivre, d'être nous-mêmes simplement. Même pas ce qu'on pourrait appeler handicap, un blocage, ce qu'on veut peut être un blocage moteur au final, parce qu'on peut se permettre, on peut être qui on veut à partir du moment où notre esprit est d'accord avec, tout simplement.
Tu peux répéter ça ?
Nous pouvons être qui nous sommes à partir du moment où notre esprit est d'accord avec. Et ça, c'est très important.
Elle est belle, celle-là.
Parce que, au final, je le répète tout le temps, ce que l'esprit ne sait pas, le corps ne sait pas. Simple.
Alors là, ce que tu viens de me raconter, ça me rappelle l'histoire de Vilma Rudolph. Est-ce que tu sais qui est Vilma Rudolph ?
Pas du tout.
Alors, je vais te lire sa bio, rapidement, sur Wikipédia. Mmh. Vilma Glodine Rudolph, née le 23 juin 1940 à Clarksville dans le Tennessee et morte le 12 novembre 1994 à Brentwood dans le Tennessee, était une athlète américaine. Triple médaille d'or aux Jeux Olympiques d'été à Rome sur 100, 200 et relais 4x100. Elle est également en possession des records du monde dans 3 disciplines. Alors ça, c'est beau, et on va aller directement à la case maladie. Issue d'une famille modeste, son père est porteur de bagages à la gare, sa mère femme de chambre, elle connaît une enfance marquée par les maladies, double pneumonie, scarlatine, surtout poliomyélite qui devait la priver de l'usage normal de sa jambe gauche. Et après, évidemment, elle a mis beaucoup de temps rien que pour pouvoir marcher. Tout le monde, évidemment, pronostiquait qu'elle ne pourrait jamais marcher normalement et encore moins courir simplement pour aller aux toilettes, par exemple. Ouais, et évidemment, ouais. Encore moins être championne. En tout cas, encore moins faire du sport. Et bien entendu, encore moins être championne olympique. Et tu sais quoi ?
Comme quoi ?
Et tu sais quoi ? Sur une finale, la veille d'une finale, son nain est revenu. Le démon est revenu et elle s'est foulée la cheville. À la jambe gauche. Rien que pour lui dire « Oh, Vilma, c'est quoi ce bordel ? Tu rentres à la maison, tu rentres dans le Tennessee, ta place, elle est pas là. » Eh ben non, elle a couru, elle a gagné.
Avec la foulure ?
Ouais. Ah. Oui, monsieur.
Mais comme quoi ?
Yes, sir.
Ouais.
Hein ?
Ah ouais. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est avant tout un combat mental. C'est avant tout un effort mental. Alors il y a là, comme je le dis à tout le monde, là, on me dit mais t'es prêt. Je suis déjà prêt depuis des années pour ces choses-là. Physiquement, il y a quand même un temps d'entraînement, d'adaptation. Mais le jour de cette épreuve, quelle que soit ton épreuve, c'est ta tête qui va te permettre d'y aller, d'aller jusqu'au bout ou de rentrer. C'est juste ça.
La semaine dernière, un pote m'a dit, Florian, je le salue bien bas, il m'a dit c'est la tête qui décide.
Ouais.
Bon alors,
tout à fait d'accord.
Et le vélo, est-ce que c'était marrant à débuter ? Techniquement, je veux dire, d'enchaîner, de passer de la boxe au vélo à un truc finalement assez technique, puisqu'on voit le vélo, on en parle souvent, mais on voit le vélo comme un truc d'enfant où on va chercher le pain. Et puis, c'est facile le vélo, mais quand on décide de faire vraiment du vélo, est-ce que c'est aussi facile que ça ? D'apprendre le freinage, la gestion des braquets, du grand plateau, du dérailleur. Est-ce que c'est facile et est-ce que c'est marrant ?
Je dirais oui, parce que moi j'ai pris du plaisir de toute façon, puisque c'était nouveau pour moi, donc j'adore ça, moi j'adore l'inconfort, mais facile, pas du tout. Je dirais plus là où j'ai eu difficile, c'est plutôt au niveau, je dirais plutôt au niveau de la position sur le vélo, où j'ai déjà, comme t'as dit, pas la corpulence, j'ai un dos beaucoup trop développé pour un cycliste, donc les premières petites blessures, les genoux, tout ça, mais... c'était pas facile, et je pense que là où j'ai eu le plus difficile, c'est au niveau de la vitesse moyenne, la gestion de ta vitesse moyenne, donc de ta cadence, en fait. D'avoir une régularité dans la cadence. Où, moi, je me lançais comme une brute, explosif, partant, et puis te rendre compte vite fait qu'au bout de 3 minutes, ton cœur, il est à 180 pulsations, faut le redescendre. Donc, tu te retrouves avec des vitesses moyennes qui montent, qui oscillent tout le temps. Donc, c'était, pour moi, la partie la plus difficile. Gestion de la position et de la cadence, d'avoir vraiment une fluidité dans ce que je faisais. Et je pense au final que même maintenant, je commence à y aboutir tout doucement, mais ça prend vraiment du temps.
Ouais. Tout ce qui est justement flexibilité du dos pour tenir ta position aéro, est-ce que tu es parti sur une position réellement aéro, ou est-ce que justement pour tenir compte de la musculature de ton dos, tu as un petit peu remonté quand même le poste de pilotage, ou est-ce que tu as misé tout sur l'aéro, ou est-ce que tu es quand même un petit peu surélevé pour pas avoir à trop te plier en deux?
Oui, je suis quand même un peu surélevé. Alors déjà, la première chose que j'ai fait, c'est de m'accompagner d'un spécialiste dans la biomécanique, l'étude de posturologie quand même. Quand il m'a vu arriver, lui, il a compris le truc, il s'est dit « mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Il a fait mon physique, il s'est dit « mais... » Donc oui, il m'a un peu surélevé, forcément, je suis pas en super aéro. Là, avec le temps, forcément, mon physique s'est adapté beaucoup plus, donc j'arrive à prendre meilleure position. Mais sur une distance aussi longue, de toute façon, clairement, comme je le répète, c'est pas ce que cherche le premier, l'aérodynamisme, parce que j'ai pas la vitesse moyenne d'un cycliste pro, ni même intermédiaire. Donc, ce qu'on va chercher, c'est le confort surtout. Pour tenir, c'est le confort pour pas avoir trop d'engourdissement des mains, pour pas avoir trop de blessures de dos, etc. C'est plus le confort, être dans une bonne position. C'est comme le MMA. Moi, c'est un peu ça. Je suis capable de prendre plusieurs informations et les utiliser à bon escient en mélangeant un peu de chacun et pas y aller à 300% dans chacune. Et le vélo, c'est pareil au final. J'ai travaillé beaucoup les positions aéro. J'arriverai jamais à une position d'un triathlète, par exemple, d'un mec sur un Ironman, mais j'arriverai à prendre, on va dire, à 30% d'un cycliste, 30% d'un aéro, 30% pour arriver à une combinaison qui va m'aller parfaitement sur une longueur comme celle que je vais faire.
Est-ce que tu t'es affiné un petit peu parce que je suppose que t'as un petit peu arrêté sur la muscu, ou en tout cas la muscu lourde et l'explosivité. Et avec le vélo, avec les heures d'endurance, etc., est-ce que tu t'es affiné un petit peu, ou est-ce que tu as gardé quand même une corpulence de boxeur?
Non, je me suis affiné. J'ai perdu 2 kilos là en moyenne. Sur ma vie de tous les jours, je suis à 72 kilos. Normalement, j'étais à 75 kilos.
Ouais.
J'arrive plus à les rattraper, hein. C'est impossible. De toute façon, avec ce que je consomme comme calories. Et la muscu, j'ai jamais été fan de muscu, donc j'ai jamais été fan de grosses muscu. J'ai toujours travaillé très naturellement, c'est-à-dire que je travaille, même si je fais des poids, parce que j'ai une petite obligation quand même de séance technique, la plupart du temps, ce que moi j'appelle muscu, c'est de travailler dehors avec des rochers, avec du bois. Je travaille énormément dans la nature. Et ça, j'ai continué de le faire. J'y tiens parce que ça me fait du bien, c'est un contact différent. Et même la muscu avec les poids, je m'envoie des bonnes sessions, mais des sessions plutôt... plutôt sur explosive avec très peu de poids. J'ai jamais travaillé avec des gros poids, j'ai jamais eu un objectif d'être très balèze, tout ça, c'est pas trop mon truc. Donc, mes amis cyclistes au début me disaient, mais tu dois pas faire tout ça, c'est un préjudice pour un cycliste. Mais, rappelons-le, moi, dans cet univers, je suis tout seul. C'est-à-dire qu'il y en a pas deux comme moi. C'est comme ça que je le vois. Et, les amis cyclistes, comme je leur dis à chaque fois, vous, à 100, 200, 300 km, vous êtes rentré à la maison. Moi, à 500 km, je commence à rouler. Et à 500 km, quand tes trapèzes commencent à lâcher, quand tes biceps commencent à lâcher, je suis bien content d'avoir fait cette muscu, parce qu'au final, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de cette résistance, cette force que je travaille au final intuitivement tous les jours.
Mmh. Oui, puis ça peut évoluer avec ta pratique. La pratique, elle est pas figée.
Ouais.
Ton physique, il n'est pas figé. Et la manière avec laquelle tu te prépares, peut-être qu'elle n'a rien à voir avec ce que tu vas faire dans 2 ou 3 ans. Aujourd'hui, tu fais ça, mais
non, c'est ça.
Rien n'est figé et ça, c'est totalement évolutif. En parlant d'évolution, oui, est-ce que tu t'imagines maintenant partir en autonomie ou venir sur des épreuves ultra bikepacking, comme il y en a énormément en Espagne, comme une Transibérica, des trucs comme ça? Est-ce que ça t'intéresse, ou est-ce que, pareil, je suis désolé de te le dire ainsi, est-ce que tu as envie encore de rester un petit peu dans le cocon protecteur du Guinness et d'avoir du monde avec toi? Ou est-ce que tu es prêt à partir tout seul à l'aventure?
Ouais, eh ben écoute, il s'est passé quelque chose là cet été. Je suis parti en repérage. Je devais aller avec une équipe et au final, pas possible, question agenda. Donc j'ai fait mon repérage tout seul en 8 jours. J'ai découvert un monde de fou. Le bikepacking, moi je connaissais pas ça. J'ai adoré. Ça m'a changé complètement. J'ai eu du mal au début, je te cache pas. Mmh. Organisation, gros stress avant. Et au final, au bout de 2-3 jours, alors tu nages dans la douleur, par contre, et t'es seul face à toi-même, parce que j'envoyais quand même 200 à 200, moi j'ai fait 200 km par jour, un peu plus peut-être, parce que je me perdais pas mal, je devais checker les routes, mais quel bonheur, donc oui, c'est dans mes plans, là, on va le découvrir rapidement, et puis j'aimerais bien m'essayer une course quand même, me frotter à d'autres adversaires aussi, ça pourrait être sympa.
Bah en Espagne, ouais, t'as de quoi faire, et puis bah évidemment en Belgique, il y a la Race Cross Belgium, il y a plein de trucs. Tu repasses à Bruxelles de temps en temps, ou t'es fixé à Malaga?
Alors j'habite à Malaga maintenant, ouais. Donc ça c'est définitif, mais je voyage beaucoup moins qu'avant. Avant, c'est vrai que je repassais assez souvent sur Bruxelles, là plus du tout quasi.
Ouais.
J'y serai dans quelques temps pour mon départ, mais c'est pas prévu. Alors après, à mon avis, il y aura un après où j'ai prévu justement la partie communication, conférence, etc. qui va certainement me forcer à voyager un peu plus. Revenir un peu plus, et avec plaisir, mais pour l'instant non, ça fait depuis que je me prépare, au final je me suis vraiment sédentarisé plus à Malaga.
La vie est belle à Malaga?
Bah oui, j'allais dire, entre les deux, il n'y a pas à choisir.
Bah ça, franchement, je t'aurais pas posé la question, hein. La question, est-ce qu'il vaut mieux vivre à Bruxelles ou en Andalousie? Bon, après, il y a certainement des gens qui préfèrent Bruxelles, qui préfèrent, voilà, chacun, il n'y a pas de problème avec ça, ouais. Mais c'est vrai que l'Andalousie et les Andalouses, c'est quand même pas mal.
Ouais. C'est pas mal, et puis on a... c'est très pas mal.
Ouais.
Et puis on a... non, on a un bon climat, on a un endroit très particulier quand même. Où, si t'es amateur de sport, c'est vrai que t'as la mer. J'ai la mer à 30 secondes de chez moi, j'ai la montagne derrière, j'ai du dénivelé, j'ai tout ce qu'il faut pour être vraiment bien dans ma préparation. Donc au final, c'est l'endroit idéal quand t'es amoureux de la nature comme ça.
Écoute, je pense que j'ai fait le tour de ce que que je voulais voir avec toi. Est-ce que toi, tu as quelque chose à ajouter
avant? Rien de particulier.
Eh ben alors, je vais te laisser pour ta minute de solitude, parce que t'aimes bien parler. La minute de solitude, c'est un espace d'expression personnelle. Je vais couper mon micro, couper la caméra. Je reste là, donc quand t'as fini, moi je reviens te voir et je coupe l'enregistrement et on peut commencer, continuer à parler tous les deux. Mais voilà, si t'as un message à faire passer, tu le dis. Donc Olivier, d'ores et déjà, bah merci beaucoup. Je te reprends dans quelques minutes, dans quelques instants ou quelques secondes en fonction de ce que tu as à dire. Et en tout cas, merci, bravo. Merci d'avoir partagé ton projet et puis vraiment au plaisir de te croiser soit à Bruxelles pour le départ, soit quand je retournerai en Andalousie parce que j'ai bien l'intention d'y retourner quand même. Mm-hmm. À tout à l'heure, à tout de suite même.
À tout de suite. Alors c'est très spécial comme moment. Moi j'ai un message à faire passer et qui est, je pense, très important parce que tout le monde vit un moment ou un autre, un moment de découverte, de redécouverte de soi. Et ce que j'ai envie de vous dire, si vous m'écoutez là maintenant, c'est si vous faites face à un moment difficile, vraiment très difficile, de profondeur dans votre vie, profondeur de votre âme, allez-y, lancez-vous et n'ayez pas peur et plongez. Faites ce qu'il faut pour vous découvrir, pour vous connaître mieux. Parce que c'est uniquement en se connaissant bien à 100% qu'on traverse les plus belles épreuves après. Et puis surtout, quelle que soit l'épreuve que vous vivez, qu'elle soit physique, qu'elle soit mentale, sachez qu'il y a une fin à tout. Et il y a surtout une belle fin à tout. Parce que l'univers est assez intelligent pour vous préparer à des épreuves que vous pouvez soutenir, auxquelles vous pouvez subvenir tout simplement. Et rappelez-vous de la lumière qu'il y a derrière. Voilà, c'est vraiment mon plus beau message que je puisse vous passer aujourd'hui, c'est n'abandonnez pas, quel que soit le moment difficile, il y a de la lumière qui vous attend, il y a une fenêtre ouverte qui vous attend, et là, ça peut exploser, et il n'y a pas d'âge pour ça. Ça peut être à 20 ans, 30 ans, 40, 50, 60 ans, il n'est jamais trop tard. Et j'espère en tout cas que ce que je fais vous aidera et vous illuminera dans votre route, et je n'en serai qu'un homme heureux. Voilà pour mon petit message. Voilà.
Voilà, attends, je coupe l'enregistrement.